Bonjour et merci d'être venu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du monde du livre. Donc le but de cette conférence, c'est de présenter un peu ce qu'est pour de vrai le logiciel libre, de tordre le cou à certaines idées reçues et de montrer un peu les deux côtés de ce monde, c'est-à-dire le point de vue des utilisateurs et le point de vue des développeurs. Donc d'abord, je vais me présenter un peu, même si tout le monde me connaît, presque. Donc, je suis nounou de l'association CRANS, c'est-à-dire que je gère l'aspect technique. Donc, l'association CRANS gère un réseau avec environ 1200 personnes et contribue en particulier par des dons au logiciel libre. Donc, moi, je fais mes études dans l'informatique théorique. Donc, je travaille plus sur papier et sur stylo qu'avec un ordinateur. J'utilise essentiellement du logiciel libre depuis seulement 3 ans et demi. Et sinon, de temps en temps, je programme sur mon temps libre, mais en soi, je contribue assez peu au logiciel libre. Donc, comme j'ai dit, il va y avoir trois parties. Donc, d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le libre. Donc, tout ça, c'est une histoire de licence, une histoire de liberté. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la licence, c'est ce que vous acceptez quand vous utilisez un logiciel ou même n'importe quoi, quand vous achetez un iPhone et que vous utilisez le système dessus, vous acceptez aussi une licence. Et c'est le long texte qu'en général, la plupart des gens ne lisent pas avant de cocher j'accepte les conditions d'utilisation. Donc, justement, d'un côté, on a le logiciel propriétaire. Donc, le logiciel propriétaire, en général, il y a des restrictions d'utilisation. Comme par exemple, vous avez le droit d'installer que sur une seule machine. Vous n'avez pas le droit de désassembler, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de regarder comment le logiciel fonctionne. Et aussi, souvent, vous n'avez pas le droit de modifier le logiciel. Et ce ne sont que des exemples de conditions d'utilisation. Par exemple, enfin, on peut citer, enfin, souvent, par exemple, sur le matériel, maintenant, on a d'autres conditions d'utilisation. Comme par exemple, quand on achète une console, on n'est pas censé s'amuser à faire n'importe quoi dessus, mais seulement jouer aux jeux qu'on a achetés et qui ont été autorisés par la maison qui a créé la console. De l'autre côté, on a le logiciel libre, donc qui se définit en général par la liberté d'utiliser le logiciel comme bon nous semble, c'est-à-dire sans temps limité, sans rien du tout. La liberté de copier et de distribuer le logiciel, donc par exemple l'installer sur toutes ses machines et même de le passer à ses amis si on veut. La liberté de connaître le fonctionnement du logiciel, donc de regarder par exemple le code source du logiciel pour savoir comment il fonctionne, et la liberté de le modifier. Donc, certains pourraient dire qu'on s'en fiche, enfin, la plupart des gens, quand ils installent un logiciel, ils s'en fichent de comment il fonctionne à l'intérieur. Mais enfin, c'est quand même une histoire de liberté et il y a plein de libertés qu'on n'utilise pas souvent, mais qui, au final, si on en est privé, on n'est pas content. Par exemple, si je vous interdisais là maintenant de sortir de cette salle, vous ne seriez pas content. Alors que, bon, j'espère que vous n'aimeriez pas sortir de cette salle, mais bon. Donc bon, on pourrait aussi dire que toute cette philosophie, toutes ces histoires de liberté, c'est un truc de hippie, comme par exemple Richard Stallman, donc, qui représente assez bien les hippies. Mais en fait, au final, pas vraiment. Par exemple, Linux a été créé par Linus Torvalds, qui n'a quand même pas franchement une tête de hippie. Donc en fait, à l'origine, tous ces principes de logiciel libre, aux origines, c'était des problèmes pratiques, aussi une volonté de partager le fruit de ton travail aux autres. Donc d'un côté, on a eu Richard Stallman. Donc en fait, un jour, il avait une imprimante qui bourrait assez souvent, et s'est rendu compte que c'était à cause d'un problème dans le driver, donc le logiciel qui communique avec l'imprimante. Mais le problème, c'est que le code du driver était propriétaire, donc il n'avait pas le droit de modifier le driver, et donc il ne pouvait pas corriger le bug. Et donc, ça l'a énervé, et s'est dit que dans le logiciel, il faudrait définir certaines libertés qui sont nécessaires. Et donc, il a fondé le projet GNU pour un peu promouvoir ces libertés, et donc, j'en reparlerai un peu après, créer un système. Donc, d'un autre côté, on a eu Linus Torvalds. Donc lui, c'était une volonté de partager en fait un peu plus. Donc à l'époque, il y avait le système Unix, qui était un système très très solide, très stable et beaucoup utilisé par les industriels car considéré comme n'ayant pas vraiment de problème. Et à côté, donc il y avait le système d'exploitation Minix, donc qui était une version destinée à des utilisations éducatives, c'est-à-dire former des gens à utiliser Unix. et qui donc lui était gratuit à condition que ce soit seulement pour apprendre et pas pour l'utiliser. Et donc Linus Torvalds a voulu créer sa version qui soit encore plus libre que ça, donc qui par exemple puisse être utilisée à des fins commerciales. Et donc il s'est mis à coder donc Linux, enfin le noyau Linux. Donc de là il y a GNU Linux, dont c'est le but c'est de créer un système d'exploitation comparable à Unix en termes de fonctionnement et de stabilité et de solidité. Donc Linux en fait c'est le noyau du système, les fondations, et GNU c'est un ensemble de logiciels qui vont fonctionner sur ce noyau, enfin en particulier. Donc maintenant de nos jours, le système Linux, ce qu'on appelle Linux, en fait, c'est un assemblage de nombreux composants qui sont issus de nombreux projets. Donc, il y a le noyau Linux dont je parlais, il y a les programmes GNU. Puis après, donc, il y a des logiciels encore plus complexes comme l'interface graphique, donc Xorg, des environnements de bureau, donc ce qui vous affiche les fenêtres de façon jolie et vous permet de lancer les applications comme GNOME et KDE. Et puis, plein de logiciels divers et variés, des jeux, des utilitaires, tout ça. Donc, tout ça, c'est distribué sous forme de distribution. Alors une distribution en fait c'est un ensemble de logiciels qui sont placés ensemble et qui quand on installe ça fonctionne direct ensemble, donc qui souvent sont configurés pour marcher ensemble. Donc ce principe de distribution est facilité par le logiciel libre car grâce au logiciel libre on peut intégrer n'importe quel logiciel et le redistribuer librement sans avoir besoin de demander l'autorisation manuellement à chaque personne et sans avoir peur que quelqu'un dans l'engrenage n'accepte pas d'avoir son logiciel intégré dans la distribution. Et donc, aussi, comme c'est du logiciel libre, on peut adapter les logiciels à la distribution en particulier. Donc, les acteurs donc, du logiciel libre, donc, c'est des communautés, donc les développeurs de logiciels, donc ceux qui font les programmes en eux-mêmes, les développeurs de distribution, donc ceux qui prennent les programmes et les regroupent ensemble pour faire les distributions. Et puis même, on trouve aussi des designers, ou même des gens lambda qui, juste par leurs idées, contribuent au logiciel libre. Mais on trouve aussi des entreprises, comme par exemple Red Hat ou Canonical. Donc, même si le logiciel libre, en soi, c'est gratuit, enfin plus ou moins, ce qu'ils font payer, en fait, c'est le service. C'est-à-dire, par exemple, Red Hat fournit une distribution Linux destinée aux entreprises, et ce qui est payant, c'est le support technique derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, que les entreprises ont la certitude d'avoir un expert qui va les aider si elles ont un problème avec leur distribution. Donc maintenant, je vais expliquer un peu pourquoi on utiliserait du logiciel libre. Donc déjà, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que le logiciel libre, c'est gratuit. Donc ça fait qu'en général, il n'y a pas besoin de payer des dizaines ou des centaines d'euros par logiciel. On peut télécharger à tout moment les logiciels et on peut les essayer, on peut savoir si le logiciel nous va ou pas et au pire, s'il ne nous convient pas, tant pis. On n'a pas vraiment, on a à la limite perdu un peu de temps, mais on n'a pas vraiment perdu son argent. Donc, un autre truc qu'on dit souvent à propos du logiciel libre, c'est que le logiciel libre est réservé aux connaisseurs. Donc au début c'était vrai parce que c'était assez technique de les utiliser, enfin les lignes de commande, beaucoup la connaissent, mais enfin beaucoup voient ce que c'est mais ne savent pas forcément l'utiliser. Et maintenant donc il y a en fait énormément d'efforts vers les gens lambda, donc c'est-à-dire pour faire des interfaces de configuration qui soient faciles à utiliser avec plein de boutons partout et non pas des commandes un peu bizarres à utiliser. Mais bon, enfin une petite précision à propos de ce point-là, ce n'est pas toujours le cas. Parce que il y a certains projets qui font tout pour que les gens lambda n'utilisent pas. Enfin, un exemple que je pourrais donner, c'est une interface graphique qui s'appelle Yon. Pour utiliser Yon, on est obligé de le compiler, chose que la plupart des gens ne savent pas faire. Tout ça parce que le développeur en avait marre de recevoir des messages de gens lambda qui posaient des questions complètement débiles. Bon, un autre truc qu'on pourrait se dire, c'est que c'est des logiciels de bas niveau. Parce que d'un côté, on a des entreprises donc, qui travaillent et dont les développeurs sont payés pour travailler toute la journée sur les logiciels, alors que de l'autre côté, on a des personnes qui, en général, programment sur leur temps libre. Et bon, il est souvent dit que plus ça coûte cher, mieux c'est. Mais justement, ça dépend. En général, pour les logiciels d'utilisation courante, le libre est souvent meilleur. Donc déjà, il y a plus souvent des possibilités d'extension et de modification, comme par exemple le navigateur Firefox, où il y a énormément de modules pour rajouter des fonctionnalités. Il y a, comme aussi dans le logiciel libre, c'est vous voulez faire quelque chose, ben, quelqu'un y a probablement déjà pensé avant vous, il l'a fait. Dans le monde des entreprises, c'est un peu moins souvent le cas parce que quelqu'un qui a une idée ne va pas forcément penser à le dire aux développeurs et n'a pas forcément les moyens de les contacter. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Comme on peut regarder comment il fonctionne et réutiliser le code du programme, ben, si on veut faire un programme qui est sur certains trucs similaires, on peut réutiliser certains bouts du programme pour refaire son autre programme. De plus, c'est souvent plus sécurisé, car n'importe qui peut vérifier la sécurité des logiciels, n'importe qui peut lire le code source, et il y a des chercheurs en informatique théorique qui passent leur temps à prouver les programmes, et donc à prouver que les programmes font bien ce qu'il faut et qu'il n'y a pas de problème. Et souvent, il y a moins de bugs. Donc, comme je disais, les développeurs sont plus proches des utilisateurs et sont en général eux-mêmes des utilisateurs de leur propre programme. Pour les logiciels un peu plus spécialisés, alors parfois, le libre est assez équivalent. Par exemple, pour la 3D, il y a Blender, qui est un logiciel libre, qui est très puissant et qui est énormément de gens, de professionnels, l'utilisent dans leur boulot. Mais souvent, enfin, si on veut des fonctionnalités complexes, le propriétaire a tendance à être plus complet. Mais bon, ça, c'est en général pour les, vraiment pour les professionnels qui font, par exemple, du dessin à longueur de journée. Parce que sinon, même pour le dessin, il y a plein de logiciels de dessin libres qui sont très bien. Mais bon, après, le problème, c'est à quel prix. Donc, d'un côté, en fait, en entreprise, il y a aussi une question de mentalité. C'est-à-dire que les développeurs, ils le font, enfin, pas tous, mais quand même une bonne partie, ils le font parce que ben, ils sont payés pour ça, donc ils le font parce que pour avoir l'argent à la fin du mois. Alors que dans le monde du libre, on n'a pas vraiment de contraintes. Les développeurs, en général, ils le font pour le plaisir, et donc ils y mettent plus leur cœur que juste d'autres considérations économiques. Et puis bon, la question c'est, après donc, tout ça que j'ai dit, pourquoi les gens n'utilisent pas du libre ? Alors déjà, il y a une pression commerciale auprès des constructeurs d'ordinateurs pour qu'ils installent Windows par défaut sur leur ordinateur. Donc, quand les gens ils achètent leur ordinateur, ils ont Windows, ils se disent « Bon, ben, j'ai un système qui marche, pourquoi je changerai de système d'exploitation, pourquoi je me fatiguerai ?» Et quelque part, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, pas l'habitude de chercher sur Internet. Parce que c'est un peu la différence avec le logiciel libre, on a souvent un peu moins de documentation, un peu moins de manuels. Souvent, pour certains problèmes, il faut chercher sur Internet. Il n'y a pas forcément n'importe quel ami qui peut aider avec ça. Et puis bon, il y a aussi une question de méfiance vis-à-vis du logiciel libre. Donc un peu parce que les entreprises forcément font de la mauvaise publicité par rapport au logiciel libre et ont beaucoup plus les moyens de faire cette mauvaise publicité. Un exemple que je pourrais donner, c'est les IPC. Au moment où Asus a sorti le concept, ils vendaient toujours avec Linux. Et puis aux États-Unis, il y a eu une énorme campagne de pub, juste où le slogan c'était « Votre IPC est beaucoup mieux avec Windows ». Point. Tout simplement. Et ben forcément, en face, Linux n'avait pas forcément les moyens de faire une campagne de pub aussi énorme que Microsoft. Et Asus veut garder ses contrats avec Microsoft, donc a accepté de revendre maintenant ses IPC avec Windows. Donc maintenant que j'ai parlé donc, de l'aspect côté utilisateur du logiciel libre, donc je vais parler en fait de l'aspect donc, développeur des logiciels libres. Parce que donc en entreprise, en général, tout le monde est à peu près situé au même endroit, tout le monde se parle en journée, bon, il n'y a aucun problème. Mais dans le logiciel libre, c'est pas vraiment pareil parce que c'est souvent des gens des quatre coins du monde qui contribuent. Et donc sur des petits logiciels, en général, ça pose pas problème. Mais par exemple, sur des gros projets, comme par exemple le projet GNOME, donc le projet d'environnement de bureau, le projet GNOME, c'est beaucoup de composants. Donc c'est une interface graphique, c'est-à-dire la barre en haut, le lanceur d'application, tout ça, des logiciels de bureautique, des utilisateurs de configuration et encore plein d'autres choses. Donc GNOME est divisé en plein de sous-projets et en général, chaque personne a un rôle plus ou moins précis dans chaque projet. Donc par exemple, pour ces gros projets, comment font les gens aux quatre coins du monde pour s'organiser ? Donc d'abord, je vais expliquer un peu comment on programme. Donc un programme, en fait, c'est à la base un code source. Donc c'est un fichier texte. Et donc ce fichier texte, on va faire ce qu'on appelle la compilation, c'est-à-dire transformer ce texte, donc qui est compréhensible par un être humain, enfin un développeur. Et donc on va transformer ce texte en un programme. Donc le programme qui est ce qu'on va exécuter, le programme qui est compréhensible par la machine. Donc quand on travaille à plusieurs sur un programme, donc chaque développeur va modifier ce texte, donc ce code source. Et est-ce qu'à chaque fois on va envoyer la nouvelle version du texte à chaque fois qu'on fait une modification, ce serait trop compliqué. Donc déjà un premier utilitaire c'est donc diff. Donc en fait, à chaque fois qu'on va faire une modification, on va l'utiliser pour calculer la différence entre donc la version l'ancienne version du fichier et la nouvelle version. Donc le résultat c'est un fichier qu'on appelle un patch qu'on peut donner aux autres et donc qui est juste la différence et qui permet en fait aux gens juste en lisant déjà de voir qu'est-ce qui a été modifié. Et donc après c'est super facile d'utiliser ce patch à leur version du fichier. Même s'il y a eu plusieurs modifications entre temps, en général si les modifications portent sur des lignes différentes, les utilitaires liés à patch sont assez intelligents pour retrouver qu'est-ce qui a été modifié et les répercuter. Et puis l'intérêt de ça c'est que n'importe qui peut faire un patch. C'est-à-dire le code source, dans le logiciel libre, n'importe qui peut le récupérer. N'importe qui peut modifier et puis après faire un patch et puis s'il veut l'envoyer aux développeurs pour que les développeurs, s'ils aiment bien le patch, l'intègrent à leur logiciel. Ensuite, les développeurs entre eux, ils vont utiliser donc des systèmes de versionnement. Donc en fait, à partir de ces patchs, ils vont mettre tout ça dans un dépôt. Et le système de versionnement, en fait, c'est le système qui va suivre l'évolution des modifications, enregistrer chacun des patchs, enregistrer l'auteur de ces patchs, la date, tout ça. Et donc permet aux différents développeurs de récupérer automatiquement tous les patchs qu'ils n'ont pas sur leur version du logiciel. Ça permet aussi par exemple de savoir qui blâmer en cas de bug, donc savoir d'où vient un bug dans un logiciel. Et puis donc travailler facilement à plusieurs. Et ça permet aussi de gérer des branches, donc des différentes versions de logiciel. Donc dans la plupart du temps, dans les logiciels libres, donc il y a deux branches, la branche stable et la branche instable. Donc la branche stable, c'est la branche la version du logiciel qu'on va donner aux utilisateurs en général, c'est-à-dire une version fonctionnelle avec en général très peu de bugs. Parce que c'est une version qui a été figée dans le temps, à laquelle on n'a pas ajouté de fonctionnalité, et tout ce qu'on a fait après comme modification, c'est corriger des bugs. De l'autre côté, il y a la version instable, donc, qui est plutôt réservée aux personnes qui s'y connaissent. Donc c'est une version à jour du logiciel avec toutes les dernières fonctionnalités. Mais avec possiblement des bugs, parce qu'à chaque fois qu'on ajoute des fonctionnalités, on ajoute possiblement des bugs au logiciel. Et donc cette branche-là, c'est la branche que les développeurs vont utiliser pour continuer à améliorer le logiciel. Et bon, parfois il y a d'autres branches. Donc toujours dans l'organisation technique, donc justement je parlais des bugs. Donc souvent pour les gros projets, il y a ce qu'on appelle un système de bug tracking. Donc ça permet à n'importe quel utilisateur de signaler un bug dans un logiciel et après donc de suivre l'évolution de ce bug. Donc ça permet d'un côté à l'utilisateur de savoir d'interagir avec les développeurs pour signaler son bug, donner toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour trouver d'où vient le bug et aussi savoir l'état d'avancement de la correction de ce bug. Et ça permet de l'autre côté aussi aux développeurs de suivre les bugs, de voir et de suivre si un des autres développeurs l'a corrigé ou si personne ne l'a fait, donc s'il faut le corriger encore. Et donc ça permet à tout le monde d'apporter leur contribution à propos du bug et donc de tout le monde de faire leurs remarques à propos du logiciel. Et donc y a ce qui donne beaucoup plus d'interaction et ce qui permet en général que les bugs soient corrigés plus rapidement et qu'ils le soient à peu près forcément. Et bon, donc dans ces gros projets, après, il y a souvent une hiérarchie. Donc il y a un grand chef, donc c'est celui qui va vraiment coordonner tous les efforts de développement du logiciel. Donc c'est lui qui va être au courant de tout ce qui se passe, c'est lui qui va discuter avec chacun des développeurs pour leur donner des rôles précis. Et c'est aussi lui qui va être là en cas de conflit pour régler les conflits et ce que tout le monde se calme. Parce que comme on sait bien, les développeurs, bon, en général, c'est des geeks et ils aiment bien troller, donc rentrer en conflit avec les autres à propos de certains points. Et donc lui, il est là pour qu'il n'y ait pas trop de conflits au sein de l'équipe. Donc il y a aussi les mainteneurs de branches. Donc c'est celui qui va gérer chaque branche du logiciel. Donc par exemple, gérer la branche stable, gérer est-ce que personne ne décide un jour à rajouter des fonctionnalités dans une branche stable alors qu'il y a des bugs dedans et tout ça. Et donc, lui, il va vraiment gérer juste une branche. Et puis après, donc, il y a le gestionnaire de nouvelles versions. Donc, c'est celui qui va coordonner, par exemple, pour une distribution, tous les efforts qui sont faits pour sortir une nouvelle version. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller insulter les gens qui ne respectent pas les deadlines. Et c'est lui qui va s'assurer que tout est prêt en même temps pour la sortie de la version. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui retarde tout le monde. Donc ensuite, donc, comme je disais, il y a beaucoup d'interactions avec les utilisateurs, mais aussi entre les développeurs. Donc ce qui nécessite beaucoup de moyens de communication divers et variés. Donc déjà, il y a les mailing lists. Donc une mailing list, de base, c'est une adresse mail. Quand on envoie un mail sur cette adresse mail, ça envoie un mail à tous les abonnés donc à cette mailing list. Donc c'est l'outil de communication le plus souvent utilisé dans les projets. Donc en général, pour les plus gros projets, il y a différentes mailing lists. Donc une mailing list pour les développeurs pour qu'ils s'organisent entre eux, pour qu'ils se coordonnent. Une mailing list pour les utilisateurs pour que chacun se plaigne quand il a des problèmes et ou demande l'aide des autres pour régler, pour savoir comment faire quelque chose. Une mailing list pour les annonces, donc par exemple pour annoncer les nouvelles versions, des trucs dans le genre. Et puis souvent, il y a aussi pour les vraiment plus gros projets, il y a une mailing list pour les patchs, donc qui permet à n'importe qui de savoir à chaque fois qu'il y a une modification sur le logiciel. Et bon, une petite précision, c'est que les mailing lists, il y a des tons très différents selon les mailing lists. Par exemple, la mailing list de développement du noyau Linux, le ton dessus est hyper agressif. Et vraiment hyper agressif. Enfin, si, quand même. Bon, comme quelqu'un racontait, un jour, il y a quelqu'un qui avait codé un driver pour un matériel particulier et l'avait envoyé sur la mailing list de développement du noyau Linux. Et là, il s'était reçu un mail hyper insultant où quelqu'un avait décortiqué tout son code source et dit à chaque ligne quelles erreurs il avait fait et pourquoi son truc était débile. Mais en fait, sur cette mailing list, c'est un compliment que d'avoir fait ça parce que ça veut dire que quelqu'un s'est intéressé à ce qu'il a fait et c'est assez rare sur la mailing list de développement du noyau Linux. Mais dans d'autres projets, par contre, le ton sur les mailing lists est très sympa. Vous envoyez un mail au développeur, il vous répond très rapidement et sans nécessairement vous insulter, vous dire que vous êtes complètement débile et que vous devriez apprendre vous-même. Alors, un autre moyen de communication, donc, c'est IRC, donc pour Internet Relay Chat. Donc, c'est un moyen de communication instantanée donc, qui est organisé en salon de discussion. Par exemple, dièse Linux sur chat.freenode.net, qui est un salon de discussion à propos de Linux. Et donc l'avantage c'est que ça permet de discuter très rapidement. En général, c'est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on reproche à peu près jamais à personne de parler sur un canal IRC. Et c'est beaucoup moins sérieux, c'est-à-dire contrairement à une mailing list où quand on écrit un mail on met un peu de formalisme sur IRC, les gens ils disent juste comme ça et ils disent juste leurs problèmes et en général, en plus, ils ont la réponse beaucoup plus rapidement que sur le mailing list. Et donc, en fait, c'est un autre moyen de communication et c'est un autre moyen, souvent pour les utilisateurs, de recevoir de l'aide. Donc, il y a aussi les newsgroups donc, qui sont de moins en moins utilisés. C'est un moyen de communication alternatif au mailing list. Les newsgroups, en général, c'est plus centré autour de sujets de discussion. Comme par exemple, là, je parle d'un groupe comp.lang.python. C'est un groupe à propos du langage Python et donc ça permet plus de c'est plus centré autour des sujets de discussion plutôt que autour de projets, mais pour les sujets de discussion comme ça il y a rarement des mailing lists pour ça. Et sinon le dernier outil de communication donc c'est les rencontres IRL pour une real life, donc où tout le monde se rencontre pour de vrai et non derrière leurs ordinateurs ou presque. Donc ça aide en général beaucoup à la convivialité et à la cohésion d'un groupe. C'est-à-dire souvent, les projets, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils sont beaucoup plus amicaux entre eux et ils arrivent beaucoup mieux à travailler ensemble. En général, c'est organisé après des conférences, c'est-à-dire ils vont faire un repas ensemble comme ça. Mais pour les plus gros projets, ça peut être des événements à part entière. Comme par exemple la distribution Debian qui, chaque année, fait... je sais même plus comment c'est... Enfin, fait plusieurs journées de conférences avec tous les développeurs Debian. DevConf, voilà. Donc, en conclusion, je veux dire que le monde du libre, c'est un univers à part entière, donc qui fonctionne avec des codes et des principes assez différents que le monde du logiciel propriétaire et de l'entreprise. Déjà, du fait que tout le monde n'est pas au même endroit et que les gens n'ont pas vraiment de contraintes. Donc, enfin, souvent, c'est un peu plus dur de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Donc, cette démocratisation du logiciel libre a été rendue possible grâce à Internet. Parce que grâce à Internet, tout le monde peut communiquer rapidement ensemble des quatre coins du monde. Et ce n'est pas seulement les gens qui se trouvent à proximité du groupe de développeurs qui peuvent les aider. Et au final, donc, le logiciel libre fait concurrence au logiciel propriétaire. Et ça se retrouve bénéfique pour l'utilisateur car les logiciels propriétaires sont obligés de faire encore mieux s'ils veulent continuer à vendre leur logiciel. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il y a des questions.
Donc, tu nous as parlé du chef bienveillant et des gens qui s'occupaient d'une ligne de développement, par exemple, pour s'assurer qu'on gardait une branche stable. Je voudrais savoir comment sont choisis ces gens qui ont des responsabilités importantes dans le développement du logiciel.
En général, ils sont plus ou moins autoproclamés. Enfin, ils sont plus ou moins autoproclamés, mais parfois, enfin, dans les plus gros projets. Quand il y a vraiment des problèmes avec quelqu'un, c'est plus ou moins la communauté qui va décider qui c'est. Après, pour les vraiment gros projets, comme par exemple Debian, il y a des vrais votes qui sont faits pour trouver qui va diriger le projet pendant un an.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, merci Michel pour cette présentation.